La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. On les appelle les intelligences atypiques, des personnes qui ont une façon de penser, d'envisager le monde avec un cerveau qui ne fonctionne pas tout à fait comme celui des autres. Ces personnes rencontrent souvent des difficultés dans les relations sociales, avec une hypersensibilité émotionnelle et une hypersensorialité, avec une capacité phénoménale à mémoriser les moindres détails d'un sujet qui les intéresse. Ces particularités neurodéveloppementales entrent dans le champ de l'autisme. L'autisme, un spectre avec des milliers de nuances, comme on le verra. Et avec mes invités, nous allons nous intéresser justement au fonctionnement du cerveau autistique pour comprendre comment il fonctionne avec ses forces et ses fragilités. C'est le dossier de la tête au carré dans un instant avec mes invités et toutes vos questions sur le site de l'émission sur franceinter.fr. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui on s'intéresse à notre héritage néandertalien.
Oui Mathieu, puisqu'une nouvelle étude suggère que si nous sommes armés contre certains virus, c'est parce que nous les avons partagés avec l'homme de Néandertal, on en discute dans un instant.
Fanny Boyon est aux commandes de l'émission avec ses gènes néandertaliens, émission préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Villard. Sur France Inter.
Voilà, l'autisme et les intelligences atypiques, dossier de l'émission dans un instant avec mes invités que je salue, le psychiatre David Gourion, la psychologue Séverine Leduc et Julie Daché, chercheuse en psychologie sociale, auteur et autiste Asperger. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Et bienvenue David Gourion. De quel autiste est-ce que vous parlez exactement alors dans cet ouvrage ?
On a cette vision un peu tout noir, tout blanc en France de l'autisme, soit des formes gravissimes avec des gens qui ont des difficultés terribles. Et on a voulu montrer qu'en réalité, on parle plutôt de nuances de gris. Et que ce spectre dont vous avez parlé peut présenter une infinité de nuances et que dans les formes les plus légères, et bien souvent, on va trouver des personnes qui nous entourent, qui sont nombreuses. Nous, on s'est rendu compte de par nos activités, Séverine Leduc et moi, que de très nombreux patients, en fait, jeunes ou moins jeunes, sont dans ce spectre-là, mais ne le savent pas. Et ont eu ce sentiment un peu de décalage vis-à-vis des autres, de ne pas comprendre. Et quand l'hypothèse d'un spectre autistique se pose, évidemment, il y a tout de suite une réaction, mais je suis pas du tout autiste, c'est pas... Avec cette image d'épinal de l'autisme, voilà. Et donc, on a vraiment voulu écrire ce livre pour montrer que ça pouvait être très différent, que ça pouvait être beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil.
Séverine Leduc, justement, vous menez finalement une sorte de combat hein, pour que l'on apprenne à mieux connaître ces intelligences atypiques.
Oui, en fait, l'idée, c'est de mieux faire connaître ce type de profil neurocognitif. Alors, neurocognitif, c'est un gros mot, pardon, qui veut dire intelligence un peu différente, pour que les gens puissent avoir un accès au diagnostic un petit peu plus rapide et efficace et éviter de se retrouver avec des pathologies associées de type anxiété, dépression, mal-être un peu trop fréquent qui n'arrive pas à se lever.
Julie Daché, vous êtes donc autiste Asperger, mais vous dites bien, effectivement, dans votre livre, dans ta bulle, que le spectre autistique est très large. Et vous évoquez aussi une bulle invisible, finalement.
Oui, en fait, ce cliché de la bulle, on dit toujours que l'autiste, il est dans sa bulle. Alors moi, je dis qu'il n'est pas plus dans sa bulle que les neurotypiques, même si eux, c'est peut-être la macro-bulle sociale dominante.
Les neurotypiques, il faudrait qu'on définisse.
Les non-autistes. Et je dis surtout que si les personnes autistes sont enfermées dans une bulle, c'est une bulle qui nous est imposée, c'est la bulle de l'exclusion, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit plus tôt, tous les autistes ne ressemblent pas à Rain Man.
Voilà. Allez, on va en parler justement dans un instant pour mettre les choses au clair avec les messages, les témoignages sûrement des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Et à la une de la science, Axel, aujourd'hui, les virus que nous avons partagés avec l'homme de Néandertal. Ah ben dis donc, c'est pas
alors,
la forme dans la grotte.
Hein. Voilà, c'est une tentative de reconstitution d'une quinte de tout néandertalien.
Tentative,
voilà. On va parler de nos relations avec ces lointains cousins qui se précisent de publication en publication. Il y a environ 50 000 ans, nous avons partagé avec les hommes de Néandertal des territoires, des gènes, mais aussi du coup des maladies. Et ça paraît logique. Une nouvelle étude détaille les types de virus et les moyens de les combattre que nous avons hérités de Néandertal. Et on en parle avec vous, Evelyne Ayer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle et on va commenter ces travaux publiés dans la revue Cell. Alors, j'imagine qu'on s'en doutait un peu qu'on avait partagé des virus et des maladies avec l'homme de Néandertal, je veux dire, avant cette publication.
Oui, ben on s'en doutait parce qu'on coexistait, même si c'était à une échelle géographique assez large. Hein. Il n'y a pas de grotte où il y a à la fois du Néandertal et nous, les sapiens. Et puis aussi, on sait que dans l'évolution de l'homme, la lutte contre les pathogènes, la résistance aux pathogènes, dont les virus, est un moteur fort de l'évolution.
Du coup, la nouveauté, là, c'est d'avoir mis des noms sur les virus ou d'avoir trouvé les moyens de les combattre qu'on partageait?
En fait, la nouveauté, c'est qu'ils essayent, à partir des données génétiques, de deviner quels sont les virus que portait Néandertal, qui nous ont transmis, donc les virus, en regardant finalement les résistances aux virus qu'on a développées dans notre génome.
Ça veut dire les résistances qu'on aurait héritées, alors?
Dans ce cas-là, ils regardent les résistances qu'on a héritées de Néandertal. L'idée, c'est que Néandertal et nous, on aurait partagé des virus. Et du coup, les gènes que l'on a reçus de Néandertal qui permettaient de lutter contre ces virus ont été avantageux et ont permis aux gens qui les portaient de mieux résister et du coup d'être transmis jusqu'à nos jours.
On connaît aussi bien l'évolution des virus que celle des hommes il y a 100 000, 50 000 ans?
Non, les virus, ça mute très vite, ça bouge très vite, et donc c'est plus difficile à une échelle de temps aussi éloignée.
Bah justement, comment on procède? Parce que c'est pas marqué dessus, virus néandertalien. Alors comment on fait dans les labos, là?
Eh ben, en fait, dans les labos, on se dit, bon, on reçoit un bout de génome de Néandertal. Si on l'a encore, c'est qu'il était important. Et donc, on regarde parmi tous ces gènes-là, ceux qui pourraient être liés au fait qu'on ait eu à se battre contre les mêmes virus que ceux de Néandertal.
Alors du coup, parmi nos défenses immunitaires et la génétique qui est derrière, quels sont les types de virus qui étaient partagés il y a 50 000 ans?
Alors eux, ce qu'ils trouvent, mais attention, hein, c'est une étude qui est, à mon avis, pour les virologues, un peu trop vaste, mais néanmoins, ils trouvent une classe de gènes qui serait dans les maladies comme l'hépatite C, et dans les maladies comme le VIH. Pas le VIH, mais dans l'ensemble, je dirais, des virus type VIH.
Comment il faut l'interpréter, là, ce que vous nous dites, alors, exactement, rapport à ces maladies? C'est directement hérité de Néandertal ou ce sont quelques gènes
En fait, on sait que pour résister à des maladies, il y a des gènes impliqués pour résister à des maladies. On sait qu'il y a plutôt certains gènes qui permettent de résister plutôt à telle ou telle maladie transmise par les virus. Et du coup, ils se disent, dans le génome qu'on a reçu de Néandertal, quels sont les gènes qu'on a reçus? On trouve des gènes qui seraient plutôt liés à certains virus et du coup on se dit ça doit correspondre aux virus qu'on partageait avec Néandertal. Alors, donc c'est un raisonnement logique mais indirect.
Donc il faut ajouter une part d'immunité dans les 2-3% de notre génome qui est néandertalien. On avait du métabolisme, des choses sur l'apparence, maintenant il faut mettre l'immunité.
Alors on savait déjà qu'on avait des gènes impliqués dans l'immunité. Il y a une très belle équipe à Paris, à Pasteur, l'équipe de Luis Quintana Mercy, qui avait montré que certains des gènes impliqués dans l'immunité native étaient aussi reçus de Néandertal et il y avait eu d'autres études. Mais là, en fait, l'astuce de l'étude, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait pas retracer aussi quels étaient les virus qu'on a bien pu partager avec ceux de Néandertal. Donc c'est d'aller un peu plus loin.
C'est essayer de comprendre la vie de ces gens à travers leurs gènes et les différences aujourd'hui, c'est ça aussi alors.
Ouais, c'est le challenge. Il nous reste des traces génétiques. Est-ce qu'à partir de ça, on peut pas mieux comprendre finalement comment vivait Néandertal, comment vivait Sapiens?
Alors pourquoi est-ce qu'on trouve des gènes néandertaliens dans des domaines précis de notre biologie et pas dans un peu partout? Là on a dit métabolisme, apparence, là immunité. Pourquoi on n'a pas des gènes néandertaliens dans les yeux ou ailleurs?
Les individus qui ont été issus de croisements Néandertal-Sapiens, en général, comme on est quand même des espèces différentes, le mélange marche pas très bien. Donc on pense que ces individus-là étaient, je dirais, plus volontiers éliminés par la sélection naturelle, sauf si parmi les gènes qu'ils avaient reçus de Néandertal, il y avait un avantage. Et donc, par défaut, on retrouve des gènes transmis de Néandertal qui finalement ont été avantageux. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des gènes impliqués dans le métabolisme, certains qui seraient liés, entre guillemets, au poil, à la cicatrisation de la peau, et bien sûr, ceux qui peuvent aider dans la lutte contre les pathogènes.
Evelyne, est-ce que certains de nos gènes homo sapiens auraient pu être fatals à Néandertal, justement?
Alors, dans ce sens-là, on ne le sait pas, mais on retrouve dans le génome de Néandertal des gènes qui sont venus de sapiens aussi. Mais là, ça devient plus compliqué parce que le génome de Néandertal est quand même de moins bonne qualité que le génome humain actuel vu qu'il est ancien et qu'il s'est dégradé.
Alors, comme vous dites qu'on a gardé que le meilleur, ça veut dire que notre immunité a été renforcée par ces hybridations. On peut le dire comme ça?
On peut dire que cette hybridation a permis de renforcer l'immunité. Mais ça, on le trouve aussi dans les populations actuelles. Quand des populations assez différentes se mélangent, on a pu mesurer ce qu'on appelle de l'introgression adaptative.
Ah bah c'est joli ça, dites donc.
C'est chouette.
Et on va se quitter sur ces mots-là. Introgression adaptative, on va le ressortir ce soir dans les dîners en ville. On et puis aussi, il y a une exposition en ce moment, voilà. Axel. Hein.
L'expo Néandertal au Musée de l'Homme, et c'est jusqu'à fin janvier, début janvier.
Début janvier.
À ne pas manquer, merci beaucoup d'être venu cet après-midi à la Une de la Science. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Merci, au revoir.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, nous pouvons reconnaître en moyenne 5000 visages. C'est une équipe de chercheurs anglais de l'Université Dior qui donne la première estimation du nombre de visages dont notre cerveau serait capable de se souvenir. Pour ce faire, les chercheurs ont demandé à 25 participants de citer ou de nommer le plus de visages connus possible en un délai d'une heure. En se basant sur le rythme des citations très rapide au début, puis en ralentissant ensuite, ils estiment qu'en moyenne, donc, nous pourrions reconnaître 5000 visages. Pendant l'éclipse, les abeilles se taisent. Une observation originale faite par des chercheurs du Missouri. Ils ont enregistré le comportement de plusieurs ruches pendant l'éclipse totale du 21 août aux États-Unis. En équipant l'entrée des ruches de mini-microphones et de capteurs de température, ils montrent que l'activité de la colonie diminue progressivement puis tombe à zéro au moment où le soleil disparaît. Silence, aucun mouvement, un moment comme suspendu, décrit par les chercheurs. Et puis trois joueurs de Tetris ont connecté leur cerveau pour une partie sans les mains. L'expérience menée aux États-Unis est une première dans le domaine de la collaboration par la pensée. Équipée d'électroencéphalogrammes, les joueurs devaient prendre des décisions en commun sur le devenir des briques dans le jeu. Faire des choix comme par exemple choisir de faire tourner ou non les petits blocs de placement. Même si le jeu était particulièrement ralenti pour l'expérience, le taux de réussite des différents groupes de joueurs était de 81%, ce qui n'est pas mal pour une première. Allez, autisme et intelligence atypique dans le dossier dans un instant.
Incredible guy, but I got some incredibly edible eyes. Big and bad enough to end a little life like yours. So go finish up your chores. Go finish up your chores. Villain, you look bored. And twilight goes with nimble toes. The crops and rows designed to know the mortal dose of right and rose. For all the schmoes can't read the prose, just watching shows. Don't catch the throes, don't examine their lives or ever gaze in the fire. And if you're living a lie, you can't be feeling so fine. Cause real folks must hide. Cause so much in this world is fear and money, power and control and pride.
William Zevilen à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, et nos invités pour parler de l'autisme et des intelligences atypiques, dossier de la tête au carré avec vous, David Gourion, psychiatre. Vous avez été chef de clinique dans le service hospitalo-universitaire de Sainte-Anne. Séverine Leduc, vous êtes psychologue spécialisée dans la prise en charge des troubles du spectre autistique. Et donc, tous les deux ensemble, vous publiez Éloge des intelligences atypiques. C'est chez Odile Jacob. Et puis, Julie Daché, vous êtes autiste Asperger, chercheuse en psychologie sociale. Et vous avez publié Dans ta bulle aux éditions Marabout. C'est un roman largement inspiré de votre vie. Et puis, on peut citer également cette bande dessinée qui est sortie en 2016 et qui s'appelle La différence invisible, qui est publiée chez Delcourt et qui est sortie en plusieurs langues, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. En 5 langues, en tout point.
Traduit. Les auditeurs nous rejoignent déjà avec beaucoup de messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Je voudrais vous donner déjà ce premier message de Gabriel qui nous dit ceci. Est-ce que vous pourriez ne pas parler que des personnes autistes Asperger? La plupart n'en sont pas. On voudrait faire croire qu'au fond, ça n'est pas si mal d'être autiste. Ma fille est une personne autiste de 43 ans et vit actuellement en foyer, son état se dégradant. Une réaction, tiens, peut-être Julie, pour commencer, Julie Daché.
Oui, alors effectivement, c'est important de ne pas nier les personnes autistes qui ont des difficultés plus importantes ou une visibilité plus importante. Par contre, j'ai quand même envie de rappeler qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel est le pourcentage de personnes déficientes intellectuelles dans l'autisme. Au début, on pensait que c'était une grande majorité. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est certainement peut-être 25%, voire 10% des personnes autistes qui sont déficientes intellectuelles. Mmh. Et n'oublions pas aussi qu'on n'a pas encore mis le doigt sur la méthode d'accompagnement idéale, si tant est qu'un jour on la trouve, qui permet vraiment aux personnes autistes d'exprimer leur plein potentiel, y compris quand elles sont non-verbales. D'ailleurs, une personne non-verbale n'est pas forcément déficiente intellectuelle. Donc en fait, ces personnes aujourd'hui qui ont encore énormément de difficultés, est-ce que ça ne serait pas parce qu'on n'a pas encore trouvé la clé et qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent?
Ouais. Alors, sauf que pour reprendre justement ce que vous dites dans votre livre et puis également dans le livre de David Gourion et Séverine Leduc, il y a au fond deux types d'autistes qu'on voit beaucoup. C'est ceux qui sont soit très pathologiques, soit au contraire ceux qui ont des capacités intellectuelles très développées. Mmh. Et qu'au milieu, finalement, on oublie tous les autres. Hein.
Oui, tout à fait. Alors ça, on le voit dans les médias, dans la culture populaire. Soit les personnes autistes font pitié, et là on met l'accent sur le pathos. Ouais. Soit ce sont des êtres extraordinaires, un peu des oiseaux exotiques. Mm-hmm. Et là on met l'accent sur
très
le sensationnalisme.
Très prisé par les médias d'ailleurs.
Très prisé par les médias. Et on oublie tous les autistes invisibles et en quelque sorte une grande partie de la réalité du spectre.
On ne va pas les oublier. Donc cet après-midi, Séverine Leduc, vous voulez réagir justement à cette première intervention de notre auditrice?
Oui, le nom du coup a évolué aussi dans les classifications. Alors maintenant on parle de troubles du spectre autistique. Oui. La question se pose, est-ce qu'il faut qu'on garde ce terme de trouble ou pas? En tout cas, spectre autistique, c'est quand même assez intéressant, puisque du coup, ça ouvre vers une multi-expression de ce type de fonctionnement intellectuel. Et donc, on sort un petit peu de ce côté clivé, très handicapé, versus génie qui s'ignore. Quoi.
Ouais, David Gourion, dès le début justement de votre ouvrage, vous dites qu'avec cette nouvelle définition du spectre autistique, on considère maintenant une personne sur 59 concernée par ce trouble, ce qui est considérable. Hein.
C'est considérable. En fait, il faut imaginer un iceberg, c'est-à-dire que les formes les plus visibles, les plus sévères d'autisme sont probablement la partie émergée de l'iceberg. Mmh. Et les formes atténuées, les formes beaucoup plus légères, sont moins importantes. Notre éditrice, Odile Jacob, a proposé comme sous-titre sur notre livre « Pas comme les autres, plus que les autres ». L'idée était de dire que finalement, avoir un petit zeste d'autisme, et sans doute sommes-nous nombreux à l'avoir, ou pour certains comme moi, espérer l'avoir, peut donner quelque chose d'un peu à côté, d'une pensée un peu différente et d'une intelligence différente. Il y a plein de formes d'intelligence différentes. Et finalement, on est en France, dans un pays où on a une vision très négative, c'est très stigmatisé. Le mot autisme fait terriblement peur et on a voulu, avec ce livre, montrer qu'en réalité, il y a une très grande diversité. On veut pas du tout énerver les familles qui nous disent « mais nous, on a un enfant, c'est dramatique, il se tape la tête contre les murs, il mange son caca ». On va pas dire « ça existe, bien sûr ». Mais ce qu'on veut juste dire, c'est qu'il y a une extrême diversité et des formes extrêmement légères et que dans ces formes-là, qui peuvent entraîner de la souffrance, il peut aussi y avoir quelque chose d'assez extraordinaire dans la capacité à penser à côté. Ouais. Einstein disait qu'inventer, c'est penser à côté. Ouais. Et il y a cette force-là dans la pensée autistique d'être capable de rompre des paradigmes.
Est-ce qu'il ne faut pas faire attention quand même, et ça rejoint aussi ce que disait notre auditeur tout à l'heure, à ne pas vouloir rendre non plus l'autisme sexy, finalement, Julie Daché? Parce qu'il y a aussi cette tendance-là. Hein.
Alors, vous avez tout à fait raison. Et là, il y a une recherche qui démontre que 66% des autistes Asperger ont déjà pensé au suicide, avoir fait une tentative de suicide.
Oui, vous citez le chiffre, effectivement.
Ouais. Exactement. Et alors ça ne veut pas dire que c'est une souffrance en soi d'être autiste, parce que les causes, c'est avant tout l'exclusion sociale. À force de ne pas réussir à s'insérer dans la société, ces personnes envisagent le suicide. suicide. Mais donc ça veut bien dire qu'en étant différent dans une société qui est hyper normée, dans une société qui est obsédée par le tout social, c'est un véritable challenge. Mmh.
Séverine Leduc a ce personnage évidemment de Rain Man au cinéma, mais que maintenant presque les autistes essayent de combattre finalement.
Oui, parce qu'il est assez caricatural finalement, puisqu'on a une personne autiste extrêmement en difficulté sur le plan de la communication et qui va développer des compétences de calcul instantané, ce qui ne revêt pas en fait la réalité. La plupart des personnes autistes n'ont pas ce type de profil. Hein. Le noyau dur de ce type de particularité, c'est ces difficultés de réciprocité émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité à percevoir ce que mon interlocuteur renvoie et pouvoir m'ajuster justement à ce qu'il me renvoie et qui va s'accompagner de particularités intellectuelles. Et je pense que si on reste focalisé que sur l'aspect ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, bien du coup, on ne va pas aider nos patients à aller mieux et à retrouver toutes les forces intérieures qu'ils peuvent avoir pour s'insérer au mieux dans la société.
Alors David Gourion, puisqu'on va parler des intelligences atypiques, il y a Soisic sur franceinter.fr qui aimerait savoir quel est le lien finalement entre l'autisme et les personnes surdouées, car sur beaucoup de points, les deux manières de fonctionner sont assez similaires.
Absolument. C'est une question très compliquée parce que on a pu voir émerger beaucoup de patients venir nous voir en disant « j'ai beaucoup de difficultés, en fait j'ai compris, c'est parce que je suis surdoué ». Et nous expliquer que ça explique leurs difficultés d'interaction sociale, leur hypersensibilité émotionnelle, etc. Et on s'est rendu compte, et ça a été une des raisons pour lesquelles nous avons écrit ce livre,
parce que vous certains d'entre eux... envoyez de plus en plus dans vos cabinets.
De plus en plus, ouais. Il y a une mode, presque un business autour de ça. C'est très à la mode d'être surdoué. Et on s'est rendu compte avec Séverine qu'un certain nombre d'entre eux présentaient, et sans doute une proportion importante, des traits du spectre autistique, et que ça n'était pas nécessairement, même si c'est très glamour de dire « je suis super intelligent, c'est pour ça que j'ai du mal à vivre », que ça n'était pas nécessairement un service à leur rendre que de leur dire « uniquement ça, et puis circuler, il n'y a rien à voir », et que peut-être y avait-il d'autres difficultés à aller trouver. Sur le plan purement scientifique, il est très difficile de connaître la prévalence exacte des troubles du spectre autistique chez les gens qui ont un haut potentiel intellectuel. Mmh. Pourquoi ? Parce que les études cliniques concernent des gens qui sont allés consulter, donc il y avait un problème et une demande. Or, la majorité des gens qui ont un haut potentiel intellectuel probablement ne consultent jamais et n'ont pas besoin. On connaît des tas de gens qui ont un haut potentiel, qui ne sont ni anxieux, ni hypersensibles, qui n'ont pas d'hypersensorialité, de synesthésie, etc. Quand vous prenez par contre les études cliniques de gens qui ont un haut potentiel et qui consultent pour ce problème, en fonction des études, qui sont pas forcément hyper bien faites, vous arrivez entre 10 et 40% de personnes de troubles du spectre autistique,
ah oui, ce qui je pense
colle à peu près avec ce que nous on voit dans nos consultations respectives et qu'ils l'apprennent en nous voyant, on leur a jamais expliqué. Et finalement l'idée c'est pas de coller une étiquette, les gens sont pas des papillons, on fait pas de la botanique, on n'est pas là pour, c'est de donner des conseils concrets. Une fois qu'on vous a dit vous êtes super intelligent, c'est pour ça. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? Par contre, si on dit peut-être que certaines de vos difficultés, vous avez des grandes forces, mais peut-être que certaines de vos difficultés sont dans ce registre-là et nous pouvons vous donner des conseils ou des clés qui peuvent vous permettre d'avancer, là, le paradigme change complètement. Et donc, c'était aussi une des raisons de l'écriture de ce livre.
Oui. Julie Daché, vous dites justement que les tests de QI actuels ne sont absolument pas adaptés aux particularités cognitives, justement, des personnes autistes, puisqu'ils sont faits en particulier par des neurotypiques. Hein.
Oui, et ils ont été étalonnés à partir de personnes neurotypiques et qui plus est, verbales. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer un seul instant qui soit adapté aux personnes autistes, dont l'intelligence est tout à fait différente, et en plus aux personnes autistes non-verbales. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Oui. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment mesurer l'intelligence des personnes autistes.
Ouais, Séverine Leduc, ça c'est un...
Et puis le test de QI, par définition, ça n'est qu'une petite proportion de l'intelligence chez l'humain. Hein. Il ne faut pas lui faire dire ce que ça ne veut pas dire. Le test de QI nous sert essentiellement en clinique à faire du diagnostic, à l'aide au diagnostic, c'est-à-dire à repérer là où la personne a du mal à fonctionner. Mmh. Se servir d'un test de QI pour évaluer l'intelligence des individus, je pense que c'est une erreur absolue. Et effectivement, chez les personnes autistes, c'est compliqué parce que la façon dont sont posées les questions fait que ça n'est pas adapté en fait à leur mode de pensée. Donc quand on a un peu l'habitude de voir des autistes, on adapte un petit peu la consigne, mais si on se réfère à la consigne stricte du test, on passe à côté de plein de choses.
David Gourion, est-ce que c'est facile finalement de séparer les choses aussi nettement entre les neurotypiques et les autismes, tellement le champ d'abord de l'autisme est vaste et tellement les choses parfois sont quand même poreuses, hein ?
Moi, j'ai envie de dire que c'est très compliqué. D'ailleurs, Séverine et moi, de temps en temps, ne sommes pas toujours d'accord parce que les nuances sont extrêmement subtiles.
Oui, oui.
Où s'arrête le spectre? Et j'ai envie de dire que finalement, on est assez modeste, nous, dans cette approche. Je pense que ce sont les patients qui nous apprennent la clinique et qui nous apprennent les choses. Je reviens juste sur Reinemann. Je pense que malgré tout, Reinemann, ça a été une première révolution. À ce moment-là, dans cette société-là, quand le film est sorti, ça apportait quand même une vision différente de l'autisme que les gens n'avaient pas. Et que la deuxième révolution, c'est aujourd'hui, avec des gens comme Julie notamment, de montrer que on peut être autiste intelligent et ne pas être Reinemann. Ça amène d'ailleurs cette difficulté qui est que certains même vont dire « Ah ben non, mais moi j'ai vu cette jeune femme, elle communique très très bien, il n'est pas possible qu'elle soit autiste. » J'ai de nombreux collègues, nous avons de nombreux collègues qui en effet, je pense, s'ils voyaient Julie, diraient « Mais non, Julie ne peut pas être autiste. » Ça renvoie à votre question, c'est-à-dire où fixer le curseur. Et ça renvoie à plein de questions philosophiques. Est-ce que c'est un diagnostic médical? Est-ce que c'est quelque chose qui a un spectre extrêmement hétérogène? Est-ce qu'il y a des formes différentes? Je crois que nous posons plus de questions que nous n'apportons de réponses dans ce livre, mais on essaye en tout cas.
Et puis Julie Daché, on parle bien d'un trouble et non pas d'une maladie. Là aussi, vous insistez là-dessus beaucoup.
Oui, c'est très important. Même le terme de trouble me gêne un petit peu. Je dis toujours que ça n'est pas une maladie et qu'il ne faut pas chercher à guérir la personne autiste. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner les personnes autistes vers plus d'autonomie et d'épanouissement. Mais en fait, la différence entre les deux, elle est fondamentale. Je vous donne un exemple. Mm-hmm. Pourquoi chercher à supprimer une stéréotypie chez un enfant autiste? Une stéréotypie, ce sont des mouvements répétitifs, par exemple un mouvement répétitif des mains. Alors qu'on sait aujourd'hui que c'est une autostimulation qui fait du bien aux personnes autistes et qui permet de baisser leur anxiété. Si on cherche à supprimer cette stéréotypie, clairement, on le fait pas pour la personne autiste. On va le faire pour le confort des neurotypiques. Et ça, c'est un vrai problème. Par contre, si cette personne autiste, elle ne sait pas prendre les transports en commun et qu'on lui apprend à prendre le bus, à acheter son ticket, à se déplacer, à se repérer au niveau de l'itinéraire, etc. Ça, c'est très important et clairement, on le fait pour cette personne, pour son autonomie, pour son épanouissement. Donc toujours se poser la question, pourquoi on le fait?
Quel mot vous employez alors si le trouble aussi
une
ne
condition,
convient pas?
Ou voilà, une personne autiste plutôt qu'une personne atteinte d'autisme, une personne souffrant d'autisme, voilà.
Et les mots sont importants. Et il y a tout un pan de la connaissance qui est important dans ce que vous dites, c'est de bien connaître justement les différents types d'autisme aussi, pour être capable d'accompagner aussi les personnes dans leurs différences.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est vraiment de la haute couture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, par exemple, que la méthode ABA, elle fonctionne. Non, ce n'est pas vrai. Elle fonctionne pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et les résultats ne sont pas forcément significatifs. Donc à chaque fois, c'est vraiment comme une recette de cuisine. Il faut tester, quoi.
Allez, on se retrouve dans un instant avec les messages très nombreux des auditeurs sur franceinter.fr.
Magnifique. Magnifique.
Magnifique. Et c'était Junior.
La tête au carré. Sur France Inter.
Voilà, éloge des intelligences atypiques, pas comme les autres, plus que les autres. C'est ce livre aux éditions Odile Jacob que vous signez David Gorion et Séverine Leduc. Et puis Julie Daché, ça s'appelle Dans ta bulle, c'est aux éditions Marabout. Les autistes ont la parole, écoutons-les. Et vous l'avez écrit d'ailleurs avec des amis, des personnes autistes hein, que vous avez interrogées justement.
Oui, j'ai recueilli leurs témoignages et je leur ai laissé un espace de parole. Je pense que c'est très important, parce que Bourdieu le dit très bien, les classes dominées ne parlent pas, elles sont parlées. Donc pour une fois, je me suis dit, voilà, c'est important que les personnes autistes s'arrogent un espace de parole.
Est-ce que justement, on étudie beaucoup l'autisme aujourd'hui, autre que dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychologie ?
Non. En fait, c'est vraiment circonscrit à l'étude des causes, des symptômes, des traitements. Et les sciences sociales ne se sont pas encore emparées de cet objet d'étude. Et c'est vraiment regrettable parce que je pense que la sociologie, l'anthropologie, la psychosociale gagneraient énormément à s'y intéresser.
Donc c'est ce que vous faites, vous, en tant que psychologue social ?
Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse, tout à fait. Et si j'ai la chance un jour d'être recrutée dans une université, c'est ce que j'aimerais continuer à faire, bien sûr.
Les questions nombreuses des auditeurs, en voici une. C'est Charlotte qui nous dit ceci. J'aime regarder la série américaine Atypical évoquant la vie d'un jeune autiste. Pour autant, je ne sais pas si elle est le reflet d'une certaine réalité. Qu'en pensent vos invités, David Gorion ?
Oui, on en discutait à l'instant. L'autiste est souvent représenté comme un garçon blanc et plutôt geek. Et on voudrait justement dire que derrière ce stéréotype, de nombreuses formes existent, y compris chez les femmes, à tout âge, et que il faut qu'on sorte un peu de ces stéréotypes-là, de cette vision univoque de l'autiste qui est un chercheur derrière son ordinateur. Pas nécessairement. Il y a vraiment des formes très différentes.
Julie Daché, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je suis très d'accord. Les femmes autistes, c'est vrai, n'existent pas dans l'imaginaire collectif. On ne se figure pas non plus qu'une personne autiste puisse être noire ou homosexuelle ou autre, alors que pourtant, les orientations sexuelles sont souvent différentes chez les personnes autistes. Et ça, c'est vraiment regrettable parce que ça invisibilise toute une partie de la population autiste, en fait.
Alors justement, on va écouter l'extrait d'un film, The Social Network, avec le prototype du geek, blanc, américain, justement, Mark Zuckerberg, inspiré donc de sa vie. On va écouter justement cette scène avec sa petite amie qui montre toute la difficulté à mener une interaction sociale avec la personne qu'on aime.
Tu as eu 1600 ?
Oui, je pourrais chanter a cappella dans un groupe, mais je sais pas chanter.
T'es en train de dire que ta sœur s'en fout ?
Faire de l'aviron ou inventer un ordinateur à 25$ ?
Ou entrer dans un Final Club ?
Eh, je suis sérieux.
D'un autre côté, j'aime les garçons qui font l'aviron.
Mais c'est pas possible, ça.
Je plaisantais !
Et oui, j'ai fait un sans faute au test.
Je suis pas toujours sûre de savoir de quoi on parle. Bon, dans lequel c'est plus facile d'entrer ?
Pourquoi tu me poses cette question ?
C'était qu'une question.
Ta question n'était pas quel est le meilleur club, ta question était lequel est le plus accessible.
Sérieux, je posais juste une question. Marc, je parle pas en code.
Erika,
t'es obsédé par les Finals Club.
Final Club. Et non, Finals Club. Et il y a une différence entre être obsédé et être motivé.
Je confirme.
Tu vois, ça c'était énigmatique, donc tu t'exprimes en code.
Je cherchais pas à être énigmatique.
Je dis que je dois faire quelque chose de remarquable pour attirer l'attention de ces clubs.
Et pourquoi t'essaierais pas de devenir le meilleur Marc Zuckerberg que tu peux être ?
Tu te rends compte de ce que tu dis ?
Je plaisantais.
Voilà, Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook, également autiste, Séverine Leduc.
Oui, là, dans cet extrait-là, c'est assez prégnant. Il y a énormément de matériel clinique dans cet extrait, à la fois des difficultés à relancer la conversation sur le même sujet. Il change de sujet de conversation en permanence, donc du coup, sa petite amie lui dit « on a du mal à suivre ». Une espèce de rigidité aussi de la pensée qui est quand même assez marquée, où il la corrige sur la prononciation d'un mot. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on reconnaît, et pourtant... C'est un des hommes les plus riches du monde, donc comme quoi.
Ouais. Et justement, vous dites à quel point l'Internet et Facebook en particulier est un outil inventé par un autiste pour les autistes. Et pour quelle raison, David Gorion ?
Il était en grande difficulté. Il a créé une sorte d'annuaire qui lui permettrait de se faire des amis. C'était ça, Facebook, à l'origine. C'était chercher à se faire des amis parce qu'il était isolé, parce qu'il était seul. En consultation, quand on voit des jeunes adolescents ou étudiants autistes, bien souvent la difficulté chez les garçons, c'est je n'arrive pas à me faire de petits amis. Parfois, on est à cette question-là avant même l'étape du diagnostic. Alors, je vous donne un exemple typique d'un jeune homme tout mignon.
Normalien.
Vraiment difficile de comprendre pourquoi il a jamais réussi à avoir une petite amie. Et en fait, je finis par lui dire mais racontez-moi précisément comment vous faites quand vous essayez d'aborder une fille. Il me dit il y a une fille rousse qui me plaisait beaucoup, etc. Je suis allé la voir et je lui ai dit j'aime beaucoup tes seins, j'aimerais qu'on fasse l'amour. Alors, Je lui ai dit, écoutez, je vous adore, vous êtes hyper honnête, le monde marcherait sans doute beaucoup mieux si tout le monde était honnête comme ça, mais ça ne marchera pas comme ça. Donc il va falloir que vous ayez une approche différente parce que...
Donc il faut une grille, quoi, finalement.
Oui, mais en fait, il a fallu que je lui fasse de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire que je lui explique ce que la jeune fille a dû ressentir quand il a dit ça, c'est-à-dire qu'elle a dû avoir peur, elle a dû se sentir humiliée, etc., etc., et qu'il aurait fallu passer par d'autres étapes. Et il y a souvent cette très grande difficulté, il y a cette pensée, moi que j'aime beaucoup, qui est très pure, très logique, mais qui ne tient pas toujours compte des conventions sociales, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, des transgressions de ces scripts sociaux dans lesquels nous sommes inscrits sans nous en rendre compte toujours.
Et vous dites que vous l'avez accompagné vraiment en écrivant finalement une sorte de scénario au moment d'une rencontre qu'il a affiché dans sa chambre.
C'est un matheux, donc on a fait un algorithme. Donc première étape, simplement parler du contexte. Là, est-ce que le cours, ça t'a intéressé, etc. Puis si elle te répond qu'elle te regarde dans les yeux, etc., peut-être un autre jour, revenir vers elle. Mais si elle t'a pas regardé, laisse tomber et décroche. Mmh. Et donner des choses. Ne pas surinterpréter. C'est pas parce qu'elle t'a prêté son stylo ou sa gomme qu'elle est éperdument amoureuse de toi, etc. Donc, apprendre à décrypter ce qui nous semble pour nous extrêmement neurotypique, extrêmement simple et intuitif, peut-être d'une complexité absolue, parce qu'en fait, la première règle des conventions sociales, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue. Ce qui est vrai chez un ami n'est pas vrai chez le médecin, n'est pas vrai chez le pharmacien, n'est pas vrai chez la cousine, et que donc il faudrait donner un nombre de clés et de situations extrêmement denses, donc ils s'y perdent, et bien souvent...
Un algorithme.
C'est ça. Exactement.
C'est l'algorithme amoureux.
Peut-être l'intelligence artificielle pourrait nous aider à donner des clés sur ces algorithmes des conventions sociales.
Séverine Leduc.
Non, je rebondissais, j'acquiesçais à ce que disait David, parce qu'effectivement, on est tout à fait là-dedans. Tout à l'heure, j'avais un patient qui m'expliquait que hier, il a été chercher une ancienne de ses collègues qu'il n'avait pas vue depuis 4 ans à la sortie de son travail sans la prévenir, juste pour être sympathique. Donc, j'imagine un peu la terreur de la jeune femme quand elle l'a vue débarquer en bas de son immeuble. Et du coup, on a été obligé de redécortiquer toute la scène pour lui permettre de comprendre que c'était quelque chose qui ne se faisait pas, qu'elle avait pu ressentir de l'effroi en le voyant arriver et que ça avait pu la choquer. Parce qu'il n'avait même pas prévenu. Quoi.
Mais là, ce qu'on dit, ça prête à sourire, mais ça peut être absolument dramatique aussi, ces erreurs d'interprétation dans les conventions sociales. Je dînais hier avec Marie Rabatel, qui est la présidente de l'association francophone des femmes autistes, qui est une femme remarquable et qui m'expliquait, par exemple, quand elle a été adolescente, elle avait eu sa bretelle de soutien-gorge qui descendait un petit peu, et puis un jeune lui avait remonté, ce qui ne se fait pas normalement, elle lui avait remis, elle avait pensé que c'était extrêmement gentil. Et il y a souvent comme ça des erreurs. Une patiente qui me disait ce copain m'a proposé d'aller travailler les matchs chez lui, je suis allé et en fait, il a essayé de m'embrasser de force, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté de prendre au premier degré les choses sans comprendre l'implicite et sans comprendre parfois le danger ou la dimension de séduction. Et pour les femmes, parfois, on a mené une étude pour le livre qui montre des taux d'agression sexuelle quand même extrêmement inquiétants chez les femmes autistes Asperger, proche de 40-50%. Pour nous, c'est quand même une vraie préoccupation. Donc, c'est pas uniquement faire des faux pas sociaux et c'est un peu drôle. Ça peut être aussi se mettre dans des situations très compliquées.
Justement, autour des relations amoureuses et celles des femmes en particulier, on va écouter un extrait d'un documentaire qui avait été réalisé par Lucie Sarfati pour France Culture dans la collection Sur les docs. Et c'est le journal d'Aspergirl.
Jeanne, tu viens avec nous ?
Je sais pas, les filles, si vous avez envie de témoigner sur tout ce qui est relations amoureuses. Jeanne, toi, tu disais que t'étais plus... Tu faisais le premier pas, t'hésitais pas.
Ben, en fait, c'est un peu compliqué. Je vois un mec qui m'a l'air sympa, ah, salut, ça va, et tout. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec l'amitié avec les garçons, parce que aussi, les garçons, en fait, ils veulent coucher. Enfin, voilà, je se cache comme ça, voilà.
Toi, Floriane ?
Les relations, c'est assez compliqué, parce que... C'est vrai que comme on comprend pas forcément, du coup ça fait qu'on est assez vulnérable. Par exemple, se faire inviter au bar et tout, pour moi, on est potes et tout, on va se faire un bar, c'est normal. Mais non, en fait, c'était dans l'optique de la drague et tout. Moi, je trouve ça vraiment dangereux. Je pense que même les neurotypiques, il y en a plein qui n'ont pas cette notion-là. Mais c'est encore plus compliqué quand en plus on comprend pas tous les signaux non-verbaux. On peut se mettre dans une situation où du coup on ne sait plus comment en sortir parce qu'on ne sait même pas comment on a fait pour arriver là, quoi.
Voilà, journal d'Aspergirl. Julie Daché voulait faire un petit commentaire justement sur cette discussion.
Non, effectivement, c'est très important du coup, je pense, d'apprendre le consentement. Alors, aux garçons, évidemment, c'est la base, et aux femmes aussi. Et surtout, peut-être, a fortiori encore plus, que les personnes autistes ont beaucoup de mal à s'affirmer et à savoir poser des limites. Donc ça, je pense que ça doit vraiment faire partie de l'accompagnement.
L'une des plus grandes avancées concernant l'autisme n'a-t-elle pas été de déculpabiliser les mères qu'on a tenues responsables pendant des décennies de cet état, Séverine Leduc?
Oui,
c'est Thomas qui nous dit ça.
Ah oui, alors ça, c'est quand même une avancée majeure, c'est d'arrêter cette espèce de vieille histoire et cette vieille légende qui nous vient malheureusement du livre de Bruno Bettelheim, comme quoi c'était les mères qui rendaient les enfants autistes, qui s'appelait la forteresse vide. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est pas du tout le cas. On sait qu'on est dans une prédisposition génétique, avec une fragilité génétique, avec un facteur environnemental qui va venir effectivement faire que le cerveau se développe un peu différemment chez les personnes autistes. Donc on n'est plus dans cette culpabilité-là, heureusement. Ceci dit, on voit pointer aussi une autre culpabilité, c'est-à-dire celle aussi d'une injonction absolument de s'occuper de leurs enfants de manière parfaite, qui peut arriver dans certaines thérapies qui sont pas forcément non plus très diversifiées. Donc il faut pas partir non plus dans cet autre extrême-là.
Allez, on va creuser justement le thème du cerveau dans un instant pour voir ce qu'il caractérise aussi chez les personnes autistes et les messages pour vous que je vous transmets sur franceinter.fr.
Je marche seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un quoi qui me rappelle. Et je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Oh, 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 oh. Quand l'ombre vient, mon pas m'entraîne. L'on allait danser le soir. Je me revois là t'embrassant et serrant fort tous mes espoirs. Comment pouvoir t'oublier? Toujours un quoi qui me rappelle. Toujours un quoi qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer. Je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Oh 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 oh.
Toujours un coin qui me rappelle la voix d'Eddie Mitchell à l'instant.
La tête au carré.
David Gorion, Séverine Leduc et Julie Daché donc pour parler des intelligences atypiques et donc de l'autisme dans l'émission. Alors il y a une question de Odile pour vous, Julie Daché, qui aimerait savoir quels sont les traits de caractère de Julie qui la qualifie d'autiste. Est-ce que vous pouvez parler justement du fonctionnement, de votre fonctionnement autistique?
Alors en fait, là, ce que je peux reprendre, ce sont les caractéristiques qui sont inscrites, qui permettent de poser un diagnostic, c'est-à-dire une façon de communiquer qui va être différente. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des difficultés à saisir le double sens, l'implicite, le second degré, et ça me caractérise complètement. Des difficultés à créer et maintenir des relations dans le temps. Donc ça aussi, typiquement, mes amis, si je leur parle pas pendant 6 mois, ça ne va pas me choquer. Et après, je leur envoie un texto parce qu'à un moment donné, j'ai besoin d'une information et c'est tout. Parce qu'on échange avant tout pour échanger de l'information et pas pour parler de la pluie et du beau temps. Et aussi les intérêts spécifiques. Donc patients qui nous prennent énormément de temps et d'énergie. Je vous donne un exemple. Moi, ça fait 6 ans que je me consacre à l'autisme. J'ai fait une thèse dessus, j'ai écrit 2 bouquins dessus, j'ai fait des conférences, j'ai fait un blog, j'ai fait une chaîne YouTube. Donc, on voit l'intensité avec laquelle je me suis consacrée à cet intérêt spécifique-là. Et aussi les particularités sensorielles et notamment une très grande sensibilité au bruit. Et là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans ce studio, les lumières sont très agressives. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui me caractérise du point de vue de la symptomatologie, entre guillemets.
Mais quand, après, quand vous dites les bruits, par exemple, pareil, vous êtes gêné quand l'ambiance sonore est très forte ou...
Oui, mélangé. Tout à fait. Et là, malgré tout, j'entends un ronronnement. Je ne sais pas d'où ça vient, en fait, dans le studio. Alors que je pense que pourtant, il doit être très silencieux.
Et moi, je ne l'entends pas, vous voyez.
Voilà. Donc, oui, effectivement, j'entends certains bruits que d'autres n'entendent pas. Et le bruit, pour moi, est très envahissant. Et je me balade toujours avec un casque anti-bruit pour me préserver, oui.
Vous dites dévoiler l'invisible aussi, hein. Ça, c'est, en tant que personne autiste, c'est un vrai pari, hein, pour une personne, justement, qui est autiste, se réconcilier avec son identité profonde.
Oui, en fait, j'explique dans le livre qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui ont reçu leur diagnostic à l'âge adulte, qui ont d'un seul coup qui se plongent dans une véritable quête identitaire, ça a l'effet d'un électrochoc et elles se rendent compte qu'elles ont été contre leur nature profonde pendant des années, que ça les a menées nulle part si ce n'est au pied du mur et à un moment donné elles décident de se réconcilier avec elles-mêmes, de faire la paix avec elles-mêmes et de se construire la vie qui leur convient. Et ça c'est magnifique en fait et je crois qu'il y a beaucoup de neurotypiques qui ne font pas ce travail-là.
Ouais, et vous parlez d'une grande fatigue psychique, hein, tous vraiment dans vos différents ouvrages, c'est ça qui caractérise aussi le combat quotidien des personnes autistes. Hein.
Absolument, avec Le cerveau neurotypique filtre l'information, c'est-à-dire nous parlons et là, pendant que vous me parlez et que je vous écoute, mon cerveau gomme toute l'information autour, je l'ai fait de façon totalement inconsciente. Alors que le cerveau autiste intègre en permanence toute l'information et tous les stimuli, et ce qui peut être extrêmement pénible et extrêmement épuisant. Le pire, c'est sans doute la cantine de collège ou d'école, où vous avez un bruit, une masse d'informations sensorielles, émotionnelles, sociales, telles que ça crée des états qui peuvent être vraiment des états de crise d'angoisse très 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 insupportables.
Cyril Leduc, il y a ce terme de caméléon social qui est employé.
Oui, alors on l'avait utilisé initialement pour qualifier les personnes qui du coup faisaient tous ces efforts pour paraître normales. Mmh. Et en fait, on s'est rendu compte que ça avait cet épuisement psychique, ça induisait cet épuisement psychique qui est d'ailleurs une des raisons d'entrée en consultation beaucoup, hein, les gens qui viennent pour dépression ou burn-out cognitif, sans vraiment savoir pourquoi, ils se mettent à déprimer, à être anxieux, et en fait, on se rend compte qu'à force de faire des efforts, à l'âge adulte, ils finissent par s'épuiser complètement. Ils viennent voir le psy en se disant, il faut absolument que je traite mon anxiété, que je traite ma dépression. Puis en fait, le problème, il n'est pas là, c'est juste prendre soin de son cerveau pour arrêter de se retrouver dans ces états-là. J'ai le souvenir d'une patiente qui, quand elle a eu le diagnostic, je rebondis sur ce que disait Julie tout à l'heure, quand je lui ai expliqué ce que c'était que l'autisme de haut niveau, le syndrome d'Asperger, toutes ces choses-là, qui m'a dit, ah mais en fait, je suis normale. Je lui dis, oui, je suis normale pour une Asperger. Et en fait, elle était complètement soulagée de savoir que, en fait, c'était pas du tout qu'elle était anormale et qu'elle savait pas faire les choses, c'est juste que son cerveau fonctionnait différemment. Et ça a permis quand même d'apaiser beaucoup de tensions chez elle.
Dans les témoignages des auditeurs, Cécile, 52 ans, et c'est seulement il y a 2 ou 3 ans que j'ai mis un nom sur ma sensation de différence, autisme. Aucun médecin, malgré plusieurs années de thérapie, n'avait émis cette hypothèse, Julie Dachet. Donc il y a cette errance du diagnostic qui est terrible aussi. Hein.
Mais je dis toujours que ma génération et les générations précédentes sont des générations sacrifiées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le syndrome d'Asperger, on a commencé à en entendre parler à partir du début des années 90. Donc on comprend aisément pourquoi toutes ces personnes n'ont pas pu être diagnostiquées.
David Gourion, presque une question de philo de la part de Thierry sur franceinter.fr. Quelles sont les caractéristiques d'une personne normale, donc neurotypique, hein, partant du principe que nous sommes tous différents ? Allez, je vous laisse le micro pendant un quart d'heure. On a le temps d'aller prendre un bon café, je pense.
Alors, ce sera pas une pirouette, mais je vais répondre. C'est une question évidemment passionnante et on pourra en discuter des heures, mais un point de réponse en tout cas intéressant, c'est d'aller regarder sur les forums de discussion des personnes autistes la façon dont elles voient les neurotypiques et dont elles nous décrivent.
Mais c'est assez drôle.
C'est un vrai régal.
Oui, oui.
Et souvent, alors ce serait intéressant que Julie complète, mais souvent il y a cette idée, finalement, sans nous les autistes, l'humanité sera encore en train de discuter futilement au fond des cavernes, à bavasser de la pluie et du beau temps, alors que nous, on s'intéresse vraiment aux vraies choses, à l'information, etc. Il y a ce côté futile, hyper auto-centré, très centré sur l'apparence, sur la réputation sociale,
c'est
le neurotypique, ne creusons pas les choses à fond. Qu'est-ce que vous rajouteriez, Julie ? Soyez quand même gentille avec nous.
Moi, je donne souvent l'exemple du neurotypique en entreprise parce que ça, c'est vraiment un système qui me passionne. Et les neurotypiques en entreprise qui vont réussir, ce sont ceux qui savent naviguer socialement, qui savent ménager la chèvre et le chou pour ne pas s'attirer d'inimitié, qui savent brosser leur supérieur hiérarchique dans le sens du poil, qui vont toujours être hyper partants pour faire les séminaires, les sorties en jet ski et tout ça. Et ce sont, c'est vrai, et ce sont ces gens-là qui vont grimper les échelons et qui vont ensuite avoir des postes vraiment importants. Et ça laisse de côté, évidemment, les personnes autistes, mais pas que, toutes les personnes qui ont un petit déficit au niveau du sens social, ou en tout cas une façon d'être au monde différente. Ça, c'est vraiment dommage.
Bon, on le voit dans le monde de l'entreprise où souvent, des personnes autistes ultra brillantes commencent à avoir des difficultés vers 35-40 ans, à un âge où dans le monde de l'entreprise, ça n'est plus uniquement votre expertise dans un domaine qui prime, mais vos capacités politiques à maintenir votre poste, à jouer un peu des coudes, et qui à ce moment-là se retrouvent en grande souffrance et sortent de l'entreprise.
Alors ce cerveau justement autistique, est-ce qu'il a des particularités qu'on arrive bien justement à déceler, David Gourion ?
Oui, alors il a des particularités. Ce qui est très intéressant, c'est que on a beaucoup parlé de l'autisme comme une maladie, mais finalement ce que montre l'imagerie cérébrale, c'est que le cerveau autiste n'est pas déficient. Il n'a pas moins de neurones ou des neurones abîmés. C'est même plutôt l'inverse. C'est plutôt un cerveau hyper puissant, hyper connecté, peut-être trop connecté d'ailleurs. Mais qui par contre, donc avec une augmentation de densité de neurones dans des régions localisées qui vont traiter de l'information, en particulier l'information visuo-spatiale. D'où peut-être cette mémoire photographique extraordinaire, cette capacité à intégrer énormément d'informations sensorielles. Et l'hyperconnectivité peut rendre compte de ce qu'on appelle les synesthésies, c'est-à-dire les fusions des sens. Certains ont, vos autistes vont vous dire « je vois les mots » ou « j'entends les couleurs ». Donc il est hyper connecté. Par contre, on pense qu'il y a une moins bonne coordination dans des régions cérébrales plus éloignées, donc une difficulté de coordination, d'intégration, d'où les difficultés, d'où l'hyper-émotivité, d'où les difficultés à comprendre parfois ce qui se passe dans le corps ou dans ses émotions, dans ce qu'on ressent, et d'où les difficultés d'intégration de ce qu'on appelle la cognition sociale, c'est-à-dire la capacité à comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'autre, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit avec ses fameux neurones miroirs dont vous avez souvent parlé ici, ou là probablement plus de difficultés. Donc ça n'est pas un cerveau malade ou déficient, c'est un cerveau différent, avec une connectivité différente.
Est-ce que ce que vous décrivez là justement, David Gourion, on peut l'observer dans tout le spectre autistique et dans tous les cerveaux des personnes autistes, quel que soit le degré justement d'autisme?
Alors c'est une très bonne question, je suis pas sûr qu'on ait la réponse à ça, parce que souvent les études... D'abord, les études d'imagerie cérébrale continuent d'aborder l'autisme sous la forme d'une maladie. Et ça commence tout de suite comme ça. On va parler d'une maladie avec ses déficits. C'est compliqué en recherche quand vous êtes dans une hypothèse qui n'est pas une hypothèse, mais déjà une conclusion. C'est une maladie, il y a des déficits, on va les chercher. Forcément, ça oriente la façon dont vous allez faire cette recherche. Il serait intéressant que les chercheurs modifient leur paradigme et soient peut-être dans une question plus ouverte de, on va pas nécessairement chercher des anomalies, mais des différences qui ne sont pas nécessairement pathologiques.
Séverine Leduc.
Alors, on a quand même un chercheur qui s'appelle Monica Zilbovicius, qui fait plein d'études d'imagerie cérébrale, qui a quand même montré qu'il y avait des différences de traitement de l'information chez les personnes autistes. Et surtout, ce qui est très déroutant, c'est que c'est un traitement de l'information qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire que, je vous donne un son, un petit son ne va pas être moins bien traité qu'un son très fort, mais des petits sons peuvent être traités de manière très forte, et à l'inverse, des sons très forts peuvent être traités de manière anarchique, ce qui va créer aussi d'autres problématiques dans tout ce qui va être analyse motrice notamment, et tout ce qui va être perception des altitudes pour les personnes, ou de leur propre corps dans l'espace. Et donc tout ça, c'est pas fait de manière linéaire, et donc ça va créer des problématiques d'adaptation à l'environnement.
Julie Daché, un témoignage de Sandrine qui nous dit ceci: mon fils est autiste Asperger, j'adore sa manière de voir le monde, tellement original et hors cadre, et je déteste la manière dont le corps médical entraîne une très grande majorité aborde justement ce syndrome.
Mais ça fait vraiment plaisir de dire ça, je me reconnais complètement là-dedans, mais je pense que les choses sont quand même en train d'évoluer, et j'espère que dans les années à venir, de la même manière qu'on a réussi à sortir l'homosexualité du DSM, c'est-à-dire le manuel de classification des maladies mentales, n'oublions pas que l'homosexualité y figurait jusqu'en 1973, j'ose espérer que dans quelques dizaines d'années, on abordera l'autisme différemment, effectivement.
Où peut-on se rendre pour un diagnostic sérieux, demande Maggie sur le site de l'émission?
Alors, dans Séverine toutes Leduc. Les régions, vous avez des centres qui s'appellent les CRA, les centres régionaux
de ressources autisme.
Voilà, j'en peux plus des acronymes. Je suis désolée, j'ai du mal avec les acronymes, moi. Dans lesquels il y a des listes, en fait, de personnes qui sont formées normalement à l'autisme pour pouvoir aider au diagnostic.
Jean nous dit: mon frère est autiste, ma tante peut-être également. Aujourd'hui, ma fille se demande si elle a des risques plus importants de transmettre l'autisme à ses enfants. David Gourion, alors l'hérédité,
on sait qu'il y a une composante génétique, alors c'est pas une fatalité génétique, hein. L'environnement joue un rôle important, mais, mais je reviens sur ce qui a été dit juste avant parce que je trouvais ça tellement joli. Il y a une poésie, je trouve, dans la pensée autistique qui est magnifique. On a écrit ce livre avec Séverine parce que nous prenons un plaisir énorme. Moi, je crois vraiment à échanger avec ces personnes qui nous apportent une lecture du monde si différente, si riche, si précieuse. si humaines, alors que bien souvent on leur dit qu'ils ne sont pas empathiques, ils sont un peu des robots, et c'est exactement l'inverse. Il y a une richesse, une profondeur, enfin, vraiment, c'est un peu un plaidoyer. On a envie de dire aux gens du monde de l'entreprise, aux gens du monde politique, aux gens du monde associatif, ne perdez pas cette richesse et cette diversité. Il faut une société inclusive parce que c'est une richesse ultra précieuse. Ces personnes sont une richesse ultra précieuse.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. David Gorion donc et Séverine Leduc, vous signez ensemble Éloge des intelligences atypiques. C'est aux éditions Odile Jacob. Et puis Julie Daché, donc ce livre Dans ta bulle, les autistes ont la parole, écoutons-les, c'est chez Marabout. Et toujours cette bande dessinée, La différence invisible, sortie il y a 2 ans chez Delcourt. Merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Merci. Merci aux auditeurs pour les très nombreux messages.